puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Aujourd'hui, notre magazine donne la parole aux chasseurs. Le 11 novembre 2020, le collectif des chasseurs de la Sensée en colère a manifesté à Arleux, dans le Douaisis. Les chasseurs dénoncent les interdictions de chasse, hors les chasses de régulation, et notamment l'interdiction de la chasse aux canards, une chasse qu'ils pratiquent depuis leur hutte et à l'aide de canards à plomb. L'interdiction étant motivée par les conditions sanitaires générales et les mesures de confinement. Les chasseurs s'étaient réunis, ils étaient près de 200. Ils ont reçu le soutien de Bruno Vandeville, maire d'Arleux, un soutien que l'élu apporte au regard des missions remplies par la Fédération de chasse. Bruno Vandeville.
Ils ont un rôle très très important pour réguler, parce que c'est surtout une écoute, un travail au niveau du milieu. Je sais qu'on peut faire, on travaille énormément avec les chasseurs pour la préparation au niveau des étangs, pour leur remise en état. Je pense qu'on a un peu trop des images, des clichés sur le fusil, sur le tir, le fait de tuer, ou ce genre de choses. Mais c'est plus un art de vivre, une pratique différente qui va bien au-delà de cela.
C'est un sujet très clivant.
Un sujet très très clivant, surtout actuellement, lorsqu'on a beaucoup de défense. On a pas mal d'associations, de montées qui arrivent sur la défense, sur les animaux à soigner, à protéger, à la douleur animale. C'est quelque chose qu'on entend énormément en ce moment.
Et vous, localement, dans une commune telle qu'Arleux, il y a les pros et les anti?
On a notamment une association qui vient à la rescousse des animaux. Donc c'est vrai qu'on a les deux espaces qui cohabitent, mais on n'a pas de soucis particuliers, quoi.
Vous craignez que si la chasse ne se pratique pas durant cette saison, ça bouleverse les équilibres écologiques et faunistiques?
Alors je ne sais pas si on serait arrivé à ce niveau-là, il faudrait demander aux spécialistes, je n'en suis pas pour étayer ce genre de propos, je n'en sais rien. Quoi.
Vous êtes chasseur?
Pas du tout, non, je ne suis pas chasseur.
Pourquoi? Parce que l'occasion ne s'est jamais présentée, ou alors c'est un centre d'intérêt qui n'a jamais été le vôtre?
Disons que je pense qu'on devient chasseur quand les parents sont chasseurs, et moi mon père n'était pas chasseur, donc du coup c'est une tradition qui se transmet de famille en famille, et dans ma famille on n'était pas chasseur. Voilà.
Un rassemblement ici de chasseurs sans fusil, c'est important ça?
Oui tout à fait, c'est peut-être un symbole important, et c'est vrai que vous avez noté ça, c'est très important de le remarquer. Oui.
Bruno Vandeville, maire d'Arleux, lors de la manifestation des chasseurs de la Sensée en colère, c'était le 11 novembre à Arleux. Autre élu présent, Charles Beauchamp, conseiller départemental communiste et président du SAGE de la Sensée, le SAGE pour schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
On a aujourd'hui une pandémie, une crise sanitaire très grave. Personne ne peut le nier. Cette crise sanitaire, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle ne fait que s'amplifier, puisqu'on transporte des malades du Covid à l'extérieur du pays, à l'étranger. J'entendais ce matin à la radio que les gens atteints du cancer ne vont pas pouvoir avoir les soins nécessaires parce que toutes les places sont prises à cause de la pandémie. C'est quand même gravissime. Et on a déjà eu un confinement et aujourd'hui, on a un second confinement qui, à mon sens, n'est pas un confinement, c'est un semi-confinement.
Autrement dit, on durcit les règles pour tout le monde ou on autorise la pratique de la chasse?
Le problème, c'est qu'on a voulu choisir entre la santé des gens et l'économique. Et on a privilégié l'économique. Ça veut dire qu'on a fait en sorte que les gens puissent travailler. Pour cela, on a remis les enfants à l'école. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a trop de gamins dans l'école, on n'est pas en capacité d'assurer la protection sanitaire, donc on va peut-être penser à arrêter l'école. On se dit aussi on va fermer tous les petits magasins, y compris dans le monde rural, là où on peut s'alimenter ou là où on peut faire des achats. Et dans le même temps, dans les grandes surfaces et surtout dans le commerce en ligne, il n'y a aucun problème. Donc il y a quand même un problème de concurrence pour tous ces gens-là. Et vient s'ajouter à cela les problèmes des pêcheurs, des chasseurs, des randonneurs, de ceux qui sont isolés. Par exemple, vous allez à la chasse avec votre frère ou avec vos cousins. ou avec votre fils, je ne vois pas où est le problème, hein, si vous êtes dans la hutte enfermée. Eh bien non, ça ne va pas, on a décidé qu'on restreignait tout ça.
Dans ce cas-là, on devrait dire également que les vestiaires de sport puissent être ouverts parce qu'il n'y a pas plus de danger à être 10 minutes dans un vestiaire de sport que dans être une hutte pendant quelques heures.
Ah, il n'y a pas plus de danger à ce moment-là. Moi, je considère qu'on a quand même aujourd'hui dans les grandes entreprises, lorsque vous voyez une multitude de salariés, eh bien effectivement, il y a beaucoup de dangers là. Il y a beaucoup de dangers, même si on explique que les masques sont mis et que les barrières sont assurées. Moi, j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui. Quand j'entends le patron du MEDEF dire « il faut remettre tout le monde au travail », je m'inquiète.
Pourquoi c'est aussi clivant le thème de la chasse, les anti, les pros? C'est toujours compliqué quand on parle de la chasse.
Ben vous savez, en France, la chasse, c'est un conquis social. Hein, ça date de la Révolution française. Et l'Union européenne s'est construite aussi sur l'uniformisation. Et l'uniformisation, ça fait que toutes les spécificités françaises, mais pas seulement la chasse, hein, la protection sociale, la sécurité sociale, la retraite, tout ça, ça doit disparaître au nom de la construction de l'Union européenne. Il suffit de relire le traité de Maastricht et on comprend pourquoi on s'en prend, par exemple, à la chasse, mais à toute autre chose.
Vous êtes chasseur ou ?
Je l'ai été, j'ai plus le temps. Je pêche encore. Mais même en ce moment, je ne pourrais pas pêcher parce que c'est interdit. Même prendre sa canne à pêche seule, on ne peut pas aller pêcher. C'est interdit. Par contre, pour aller bosser, on peut y aller. Hein.
Vous évoquiez tout à l'heure votre implication dans le domaine environnemental, notamment à travers la gestion de l'eau. Quelle est la relation que vous entretenez avec les chasseurs et la fédération de chasse dans ce cadre-là ?
Écoutez, je considère que les chasseurs, comme les pêcheurs, comme tous les usagers de la nature, ce sont des gardiens. Des gens qui sont des alertes. Lorsqu'il y a des soucis, c'est eux qui nous le font remonter tout de suite. Voilà. Ce sont des acteurs indispensables à la protection de la nature.
Autrement dit, s'ils ne peuvent pas aujourd'hui aller là-bas, vous craignez qu'il y ait une détérioration qui puisse échapper à la vigilance?
Ah oui, bien sûr, parce que ce sont des vigies irremplaçables, chasseurs, pêcheurs, voilà.
Et sur cette mission de vigie remplie par les chasseurs, nous en parlerons un peu plus tard dans cette émission. Émission réalisée à l'occasion de la manifestation des chasseurs de la Sensée en colère, réunie le 11 novembre 2020 à Arleux. Le porte-parole de ce collectif, Michael Marquand, dénonce, lui, des mesures d'interdiction sous couvert de la crise du Covid pour limiter la chasse, et notamment la chasse au canard, chasse à la planche, chasse à la hutte. Il nous en parle, Michael Marquand.
Les causes du malaise, bien sûr, on ne va pas négliger le contexte sanitaire. Nous en sommes tous conscients. Aujourd'hui, nous pouvons réguler les grands gibiers, les pigeons, les corvidés. Et nous, chasseurs de gibier d'eau, nous ne pouvons pas chasser librement le gibier d'eau car nous ne faisons pas partie des chasses de régulation.
Un canard, c'est aussi dangereux, excusez-moi, pour l'équilibre écologique que peut l'être d'autres espèces telles que le sanglier qui pourrait, s'il proliférait, venir détériorer les productions agricoles ou autres. On a du mal à imaginer que le canard puisse être dangereux si jamais il n'est pas chassé.
Alors il y a des espèces comme l'oie cendrée qui provoque énormément de dégâts. Elle a besoin d'être régulée, cette espèce. Bien entendu, toutes les espèces ne sont pas nuisibles. Le gibier d'eau n'est pas nuisible. C'est une chasse traditionnelle et nous le mettons en avant aujourd'hui.
C'est pas un peu égoïste de se dire ben ouais non, on a besoin nous de se rassembler, on interdit également aux gamins d'aller faire du sport et on leur interdit les vestiaires. Si on autorise la hutte, on ouvre les vestiaires pour la pratique sportive.
Aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a un malaise dans la chasse. On nous autorise à aller à la régulation d'espèces nuisibles. Maintenant, le gibier d'eau, on pratique cette chasse dans des milieux fermés, certes, mais être un ou deux dans une hutte, je ne vois pas en quoi ça pourrait nous impacter directement sur la santé. Quand les règles sanitaires sont respectées, donc gel hydroalcoolique, les masques, les huttes ventilées, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour la pratiquer, mais aujourd'hui, notre ministre ne l'entend pas de cette manière.
On a peut-être une image déformée de la véritable pratique de la chasse à la hutte. On imagine les huttiers, excusez-moi, hein, mais à l'apéro tout au long de la journée.
C'est le sketch des inconnus. Bon, après, il faut arrêter, il faut venir dans les réalités, quoi. Il faut rentrer dans les réalités. Il faut arrêter un peu toutes ces idéologies qui n'ont pas lieu d'être.
Est-ce que vous avez remarqué, suite au confinement du printemps, davantage d'espèces ? Est-ce que finalement, il y a besoin de chasser pour réguler ce qui a été perturbé plus ou moins quand même ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des espèces qu'on retrouvait en ville et autres, que la nature s'est réveillée. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant cette période, il est nécessaire de chasser pour revenir à un équilibre qui était celui d'avant le confinement ?
Mais justement, si on ne chasserait pas aujourd'hui, les espèces gagneraient les villes. Elles ont besoin d'être régulées par des quotas. Donc c'est essentiel aujourd'hui, la chasse de régulation et nos chasses traditionnelles.
Vous évoquiez tout à l'heure l'oie, c'est ça, l'oie cendrée ?
L'oie cendrée, oui. Oui, c'est un sujet qui fait grand débat depuis des années. Nous voulons la chasser après le 31 janvier. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible parce que bon, avec la directive européenne, elle ne nous permet pas de la réguler.
On aperçoit également des espèces qui sont assez fréquentes quand on se promène dans la Sensée. Ces cormorans, c'est ça, qui viennent nicher même sur les antennes. Ces oiseaux noirs, c'est quoi ça ?
Oui,
ça se chasse, c'est quoi ? C'est invasif ? Il y en a de plus en plus ?
Alors nous ne pouvons pas réguler cette espèce, du moins dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, je sais que dans l'Aisne, il y a des bagues pour pouvoir le prélever, parce que bon, ça fait énormément de dégâts au niveau piscicole et sur nos marais.
Donc ça, là, vous ne pouvez pas prélever ?
Non, du tout, non.
C'est une espèce qui s'impose de plus en plus, mais il n'y a pas d'autorisation. Qui donne ? Qui gère ? C'est quoi ? C'est la Fédération de chasse qui doit négocier avec, à ce moment-là, le ministère de l'Environnement ?
Oui, bah après, ça, c'est des arrêtés préfectoraux. Hein, donc c'est le préfet qui va donner des quotas suivant les départements et les populations. Maintenant, vous venez de soulever le problème. Pourquoi ici, nous ne pourrons pas le chasser vu le nombre conséquent de cormorants ? C'est un sujet à creuser.
Comment vous expliquez que ce soit aussi clivant, la chasse, qu'il y ait les pros et les anti ?
Bah, je vais dire qu'il y a beaucoup quand même d'idéologie, donc déjà politique. Nous sommes quand même des ruraux. C'est ce que nous mettons en avant. La ruralité fait partie intégrante de la chasse. Donc on est quand même les premiers acteurs locaux. Je vais vous dire, en France, il y a toujours eu une société de chasse dans chaque commune, comme il y aurait eu un club de foot. Donc c'est vraiment... Et ça ne s'éteindra pas demain.
Quand je me promène, moi, là, récemment, j'ai vu qu'il y avait, vous savez, du grain mis à disposition. Justement, les chasseurs font leur travail. Ça sert à quoi de nourrir, excusez-moi, une espèce pour aller la chasser après ?
Alors, je vais répondre très simplement à votre question. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire, ça fait 3 ans où l'on connaît des sécheresses accrues. On est obligé d'avoir la main de l'homme pour aller abreuver les bêtes. Dans le temps, c'est pareil, il y avait les moissonneuses. Ils étaient moins performantes qu'aujourd'hui, elles laissaient passer du grain. Maintenant, aujourd'hui, elles sont tellement perfectionnées que plus rien ne passe. Donc il faut la main de l'homme pour aider le gibier à se nourrir et s'abreuver.
L'aider pour après le chasser derrière, enfin, ça paraît, quand on est loin de tout ça, c'est pas simple à comprendre. Il y a une incohérence.
Je vais vous dire une chose, c'est la Suisse. La chasse de la perdrix grise a été... interdite. Aujourd'hui, il n'y a plus de perdrix. Nous, en France, on a maintenu la perdrix dans ces milieux grâce à la main de l'homme. Et ça, il faut en être conscient.
Donc ça contribue aux préservations et à l'équilibre de façon générale ?
Tout à fait, tout à fait.
L'équilibre tel que vous l'imaginez, on a la même lecture de l'équilibre quand on est de l'autre côté. Chez les associations et lobbies anti-chasse, on pense de la même façon ou alors on n'est pas d'accord sur des questions d'équilibre ?
Non, on n'est vraiment pas d'accord sur les questions d'équilibre. Je vais vous dire que pendant des années, nous nous sommes fait léser par les associations anti-chasse sur les quantifications d'espèces migratrices. Aujourd'hui, à ce jour, il y a des radars pour quantifier... toutes ces espèces et les différencier. Donc nous travaillons vraiment sur l'aspect scientifique.
Ça coûte cher la chasse aujourd'hui ? Ça coûte de plus en plus cher ? Ou alors ça coûte moins cher parce qu'on se souvient également que le permis de chasse a été revu à la baisse. C'était une mesure du président, il me semble.
Mais le permis de chasse, nous le devons déjà aux chasseurs, aux fédérations de chasse. C'est de l'argent investi aux chasseurs, on ne doit rien à personne.
Ça coûte cher pour chasser ?
Oui, ça coûte cher, oui, c'est un investissement. Comme, je vais dire, un sport lambda, nous, la chasse, déjà, ça nous coûte énormément de temps. Le gibier d'eau, c'est 5 mois et 15 jours de chasse, mais c'est une année de préparation, quoi. Donc oui, c'est un investissement personnel, c'est un investissement pécunier aussi.
Ça appartient à qui, une hutte ?
Alors une hutte, ça peut être privé, bien entendu. Ça peut être comme nous, la société de chasse des Marais d'Arleux, le Marais des Cours Saint-Quentin, communal, et loué à des sociétés de chasse. Donc qui reste vraiment local, communal, quoi.
Donc vous en avez la jouissance et également vous entretenez ces huttes ?
Tout à fait, oui. C'est, je vais vous dire, chasser, c'est une chose. Maintenant, préserver nos milieux, ça passe avant la chasse. L'entretien des huttes, l'entretien des marais, des zones humides. Et c'est ce que nous mettons en avant aujourd'hui par notre revendication de premier écologiste de France.
C'est de la com', ça, ou c'est une réalité ?
C'est une réalité. C'est une réalité. Quand je vois le peu de temps de chasse qu'on a à l'heure actuelle par rapport à nos anciens, et tout l'entretien qui est effectué, je vais vous dire, c'est vraiment par passion qu'on pratique nos chasses.
Mickaël Marquand, porte-parole du collectif des chasseurs de la Sensé, en colère, suite de notre émission, dans un instant.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de bonheur. J'avais mon fusil dans les mains, un pas se reprenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis partie tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Notre émission aujourd'hui avec les chasseurs de la Sensé en colère suite aux mesures d'interdiction de la pratique de certaines chasses en cette période de pandémie. Je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique Coquel, chasseur lui aussi présent à cette manifestation qui se déroulait à Arleux le 11 novembre 2020.
Alors on est à bon gros 200, on va dire 250 personnes aujourd'hui. Ça fait plaisir de revoir les anciens qui ont milité pendant des années, comme Paris, Valenciennes et tout ça, qu'on ne voyait plus dans les rassemblements de maintenant, comme au pont de Normandie, tout ça. Ça fait plaisir de les revoir, de voir des personnes d'une cinquantaine d'années qui se remobilisent. C'est la preuve qu'il y a un gros problème dans le monde de la chasse au jour d'aujourd'hui.
Pas beaucoup de femmes ce matin, hein. Pas c'est, bon. Et ça, c'est typique à la chasse. Ça reste encore un domaine essentiellement masculin.
Tout à fait. Ça se démocratise. Il y a quand même une dizaine de femmes ici sur place qui, à ma vue, pratiquent tous la chasse, plus ou moins. Le milieu évolue vers le monde féminin, mais c'est encore léger, je veux dire.
Là, dans le discours, j'ai entendu parler de la grippe aviaire. Expliquez-moi un petit peu la relation entre la chasse et la grippe aviaire.
Alors en fait, il se passe qu'au jour d'aujourd'hui, Madame Pompili a monté le risque de transmission de la grippe aviaire à un niveau élevé pour notre pays. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête, puisqu'au jour d'aujourd'hui, en France, il n'y a aucun cas. En Belgique, il y en a quelques-uns, et en Hollande, quelques-uns. Sauf que ces cas sont vraiment isolés. Il y a un canard siffleur en Hollande, il y a deux cygnes en Hollande aussi, sachant que les cygnes ne migrent plus au jour d'aujourd'hui, quasiment. Donc il y a un canard siffleur, alors qu'il y en a des millions et des millions en Hollande au jour d'aujourd'hui. Donc quand on voit un seul canard siffleur contaminé, je veux dire, c'est un peu gros, quoi. En fait, pour moi, elle passe par cette circulaire, on va dire, pour nous interdire la chasse et pour servir à ses intérêts personnels d'anti-chasse, tout simplement.
Pour vous, l'impact, quand il y a un risque de grippe aviaire élevé, les pratiques de chasse ne sont plus les mêmes.
Alors en fait, on a un impact là-dessus. Donc quand elle passe en élevé, tout simplement, on se retrouve avec un décret, avec un arrêté carrément préfectoral nous interdisant, le transport et l'attelage de nos implants. Alors on a eu des dérogations. Alors,
les implants, ce sont des canards vivants qui sont là pour appeler les autres.
Tout à fait, voilà. C'est des canards vivants qu'on installe pour appeler les animaux sauvages, enfin les canards sauvages, tout simplement. Après, à côté de ça, on a eu des dérogations par le passé, nous autorisant à chasser avec nos canards qui sont sur place en captivité. Chose qui est logique, puisque les canards en captivité sur place, je vois pas pourquoi le canard sauvage ne peut pas se mettre en relation avec lui. Donc, qu'il soit attelé ou qu'il soit en parc, il n'y a aucune différence là-dessus.
Pour ceux qui connaissent mal, c'est pour ça que quand on se promène dans le long des étangs, parfois on trouve des cages avec des canards dedans qui sont dans l'eau. La vocation, c'est pour ces canards, donc je vais pas dire domestiques, mais d'élevage, d'appeler le canard sauvage.
Tout à fait, oui.
Pour être dans votre champ de mire.
Tout à fait. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. On place des canards domestiques, on va dire, pour faire venir les sauvages. Ouais.
Donc cette pratique actuellement, elle est interdite.
Alors quand on passe en risque élevé, au jour d'aujourd'hui, donc elle est interdite. Ouais.
Ok. Autrement dit, vous n'avez pas le droit à la hutte, vous n'avez pas le droit non plus à la chasse à l'aplan.
Alors on n'a pas le droit à la chasse à l'aplan. La chasse au gibier d'eau, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est défini comme une interdiction. Il y a eu des communiqués de presse de la préfecture. Mais il n'y a au jour d'aujourd'hui aucun arrêté préfectoral nous interdisant, la pratique de la chasse.
Votre représentant du collectif, j'ai oublié son nom.
Michael Marquand, oui.
Michael Marquand vient dire, mais c'est pas grave, puisqu'on a le droit à la chasse de régulation, et notamment à la régulation du pigeon, on va aller dans les huttes pour réguler le pigeon depuis la hutte.
Tout à fait, en fait...
Mais alors ça, c'est interdit d'aller dans la hutte.
Bien sûr que si, il n'y a rien qui nous l'interdit. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore toujours pareil. Donc Madame Pompili veut faire une différence entre les chasses, la chasse de loisirs et la chasse dite de régulation, donc par obligation, puisque elle n'a pas envie de payer les dégâts de gibier, chose que nous, c'est pareil, on paye depuis des années des millions d'euros par an grâce à nos permis de chasse, à nos cotisations. Et au jour d'aujourd'hui, on lui a dit, voilà, si vous ne nous laissez pas aller à la chasse, vous paierez les dégâts. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle veut nous faire chasser uniquement les espèces nuisibles qui occasionnent des dégâts pour l'agriculture, la vie faune, etc.
C'est-à-dire que d'être plusieurs, on va dire deux personnes dans une hutte pour chasser le pigeon, aujourd'hui, ça, vous avez le droit de le faire.
Tout à fait, il n'y a rien qui nous l'interdit, donc on a le droit d'aller à 10 chasser le pigeon. Par contre, on n'a pas le droit d'aller tout seul chasser le canard, chose complètement ahurissante.
C'est l'arrêté qui est mal formulé, on aurait dû dire carrément on interdit l'accès aux huttes, alors dans ce cas-là.
Alors on ne peut pas nous l'interdire puisqu'on a nos canards sur place et il faut bien qu'on aille leur mettre à manger, à boire et laver les parcs puisque ça fait partie de la veille sanitaire aussi.
Et donc autant en profiter pour chasser le canard sauvage à ce moment-là. Si on a le droit d'y aller pour chasser le pigeon, il n'y a rien qui vous empêche de chasser le canard ou l'oie ou...
Tout à fait, il n'y a rien qui nous le définit, donc on servira de ces dérogations. En fait, ces dérogations serviront uniquement pour se promener sur la route, ça ne faut pas l'oublier. Donc ça nous servira pour se promener sur la route, on ira réguler le pigeon, puisque Mme Pompili veut qu'on régule le pigeon, et par la même occasion, on chassera autre chose.
À quel moment on sait qu'on a suffisamment chassé et qu'on ne prélève pas trop? Moi, je me suis toujours posé la question. Tous les chasseurs comptent et remontent l'ensemble de leurs prises. Qui comptabilise tout ça?
Donc en fait, on a un système de gestion adaptative qui a été mis en place depuis 2-3 années. Avant ça, on a commencé des comptages nous-mêmes, parce que les comptages, nos chers amis écologistes, 2 jours à la jumelle ne valent rien, puisque les oiseaux migrateurs, il n'y a qu'un pour cent qui migrent la journée. Donc, ce qui veut dire que la nuit, ils ne pouvaient rien comptabiliser du tout. Donc, en lien avec les fédérations, la région de France et donc M. Xavier Bertrand, qui nous a financé un radar ornithologique. Donc, M. Xavier Bertrand nous a financé une partie. Nous, les chasseurs, on en a financé une autre pour pouvoir compter réellement la migration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc, vous comptez le nombre d'espèces, mais à quel moment vous savez si vous en prélevez trop ou pas suffisamment?
Alors, en fait, ça, il n'y a rien au jour d'aujourd'hui qui peut nous le dire, sauf la baisse des comptages d'une année à l'autre. Selon, en fait, c'est un prorata, hein, selon la migration, on sait dire si ça en baisse ou pas. Après, il y a aussi le comptage sur les zones d'hivernage, même pas spécialement en France, mais en Europe, comme la Hollande et tout ça. Et là-dessus, on sait dire, voilà, cette année, il n'y en a plus qu'autant qui sont là à l'hiver, et pourquoi il n'y en a plus autant.
Je reviens sur ma question de la grippe aviaire de tout à l'heure. J'ai entendu dire également que les chasseurs sont finalement les veilleurs, ceux qui peuvent voir si une espèce est atteinte. C'est-à-dire que quand un canard est chassé, tout de suite, le chasseur sait si la bête est malade ou pas.
Alors ça, oui et non, mais par contre, dans nos canards, quand on est en risque élevé comme ça, si on a une mort de nos implants, ils sont analysés par le biais des fédérations de chasse.
Donc c'est quand les espèces sauvages amènent la maladie aux implants qu'on peut savoir s'il y a des risques de grippe aviaire. C'est pas en chassant le canard et en allant l'analyser dans un laboratoire.
Non, tout à fait. C'est pas le canard qu'on va chasser, qu'on va analyser. Bien que, à moins que sur les temps, on trouve un canard pas très bien en point et qu'on se débrouille pour le récupérer et le faire analyser. Mais sinon, non, c'est pas par ce biais-là.
Donc que de le chasser ou pas, ça ne change rien sur le risque de limiter l'arrivée de la grippe aviaire.
Alors, le souci d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus que les gardes de hutte qui vont mettre à manger à leur canard. Ce qui veut dire que ça diminue, c'est une personne une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Tandis que si c'est chassé tous les jours, la veille sanitaire est beaucoup plus importante.
Vous allez aller chasser?
Tout à fait, oui.
Quand?
Dans les jours à venir.
Vous allez chasser quoi?
On chassera le canard et le pigeon, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est déterminé, on lâchera rien.
C'est pas gênant quand des gens en armes n'appliquent pas la loi. Excusez-moi, mais là, vraiment, ouais. C'est la question que je me pose. Que de voir des gens armés aller au-delà des autorisations, moi, ça me fait un peu flipper.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a jamais dérogé aux règles. On n'a jamais fait usage de quoi que ce soit de nos armes ou autre. On est là, on a des revendications. On se rassemble, on les fait entendre. De façon, j'ai envie de vous dire... de façon normale et simple, par la parole, etc.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux associations ornithologiques qui sont quand même toujours également là des vigies qui disent mais les chasseurs ils prélèvent de trop, ils prélèvent mal, c'est pas comme ça
Bah moi je les invite à venir se rapprocher de nous parce que c'est vrai que la gestion adaptative on pourrait la faire tous ensemble, plutôt que toujours se tirer dans les pattes. De une. De deux, ils n'ont pas de radar ornithologique, donc au jour d'aujourd'hui, d'ici 2-3 années, nos données seront plus fiables que les leurs. Parce qu'une personne qui compte à l'avenue et un radar électronique qui compte, il y a une grande différence. Donc je les invite à se rapprocher de nous s'ils ont envie de travailler ensemble main dans la main et de faire perdurer justement les espèces comme on le fait depuis des années.
Une chasse professionnelle, vous l'imaginez ou pas du tout?
C'est-à-dire une chasse professionnelle?
Un petit peu, vous savez, comme les services de secours, les pompiers, on a des pompiers professionnels et à côté de ça, on a véritablement des pompiers qui sont des volontaires, mais qui sont de véritables professionnels, mais qui sont des volontaires. Okay. Est-ce qu'on pourrait imaginer à peu près un tel dispositif, selon vous, pour la chasse?
Non, c'est inimaginable au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas laisser passer aujourd'hui cette différence entre la chasse de loisirs et la chasse par obligation. Donc c'est pour ça qu'on lâchera rien, et ça, il y en a hors de question, on ne laissera jamais diviser les chasseurs comme ça entre eux.
C'est vous qui avez parlé de chasse de loisirs, tout à l'heure vous m'avez dit, j'ai entendu, c'est tout sauf un loisir, la chasse.
Si, c'est un loisir, quoi. Ça, nous c'est notre passion, c'est une passion ancrée en nous, et surtout ici dans la vallée de la Sensée, et je veux dire, on ne lâchera rien, on gardera notre chasse de passionnés jusqu'au bout.
Si je vous dis que je ne suis pas un anti-chasse, je ne suis pas un pro-chasse, je pense qu'il faut de la régulation partout. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des espaces de discussion, moi.
Oui, tout à fait. Alors, avant, on organisait la nuit de la sauvagine qui a un peu tombé à l'eau par la suite. On faisait ça avec des écoles et tout ça. Ça permettait de faire passer le message, faire voir un petit peu ce que c'était que la chasse réellement. Et non, la chasse de business, j'ai envie de vous dire, comme dans certains endroits. Non, chasse les migrateurs, une espèce sauvage. Et je vous invite grandement à venir, venir la découvrir avec nous. C'est une chasse de passionnés.
On se donne rendez-vous dans une hutte d'ici peu ?
Aucun souci, avec plaisir.
J'y manquerai pas.
D'accord, pas de problème.
Aujourd'hui, La Puce à l'Oreille donne la parole aux chasseurs en colère de la vallée de l'Ascensée. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, juste après Julien Doré.
La Puce à l'Oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille.
Aujourd'hui, avec les chasseurs de la Sensée en colère suite aux mesures de restriction de la pratique de la chasse en cette période de confinement. Je vous propose de retrouver à présent Raymond Gaillard, représentant départemental des sauvaginiers du Nord, autrement dit les chasseurs d'espèces sauvages, lui aussi présent à ce rassemblement de chasseurs
depuis
en colère.
L'apparition de
c'était
la grippe
le 11 novembre 2020 à Arles.
On nous a imposé des mesures sanitaires en nous demandant d'être les veilleurs, pour les veilleurs sanitaires au niveau de la chasse. Donc nous avons accepté cette mission en mettant défilé sur nos parcs à Canner, en faisant des écouvillonnages en accord avec les fédérations. À côté de ça, on a limité nos implants à 10 implants en période de H1N1. Donc si vous voulez, je ne vois pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on nous interdit de refaire la même chose, alors qu'on accorde des dérogations ailleurs sur le gros gibier, sur les dégâts de gibier, si vous voulez. C'est ça.
C'est-à-dire que cette grippe, je reviens là-dessus d'abord dans un premier temps, H5N1, elle est véhiculée par les oies, par les canards, les cygnes ?
En particulier les cygnes.
D'accord. Elle est transmissible à l'homme ?
Transmissible ? Non, elle n'est pas transmissible à l'homme. Il n'y a jamais eu un cas de H5N1 ou H5N8 transmissible par le canard vers l'homme.
quand vous constatez que la grippe arrive, c'est-à-dire que ce sont vos aplants à ce moment-là qui sont contaminés. C'est bien ça, c'est pas parce que vous allez prélever ce que vous avez chassé pour le faire analyser.
Non, non, non. Dès que nous avons des cas de mortalité dans un parc à canards, on le signale aux autorités sanitaires. Et qu'eux viennent nous récupérer nos aplants pour y effectuer des analyses pour savoir si ça, c'est bien le H5N1 ou H5N8.
Donc, que la chasse se pratique ou pas, c'est-à-dire que vous tiriez les espèces ou pas, vos aplants sont là, donc la veille, elle continue malgré tout.
Oui, la veille continue malgré tout, mais on nous interdit de pratiquer notre passion. Je ne vois pas pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, un canard prélevé qui est atteint, s'il est atteint du H5N8, ben, il ne va plus contaminer d'autres canards. Il faut savoir aussi qu'un canard...
Selon vous, c'est la chasse qu'on interdit ou c'est le rassemblement et c'est la distanciation sociale qu'on interdit quand on dit on ne peut plus pratiquer la chasse à la hutte?
Actuellement, on se sert du Covid pour nous interdire la chasse à la hutte. Madame Pompili se sert du Covid, se sert du H5, alors qu'il n'est même pas encore dans notre pays. Il faut savoir qu'il est quand même à 200 km de nos frontières. Et elle se sert de ces trucs-là, si vous voulez, pour nous interdire notre passion. C'est tout simplement... Et la chasse du gibier d'eau, ça a toujours été le vilain petit canard, si vous voulez. Donc, automatiquement, on essaye par tous les moyens de la supprimer. Et si on a supprimé la chasse au gluau, chose qu'elle a déjà faite, elle a tout arrêté. Là, elle s'attaque au gibier d'eau, mais demain, elle va s'attaquer aux autres chasses. C'est clair que son but final, Madame Pompili, c'est d'arrêter la chasse définitivement.
C'est nécessaire de chasser ce type de gibier. Est-ce qu'on aurait un désordre écologique s'il n'y avait plus ces prélèvements faits par les chasseurs?
Oui, il y aurait des dégâts de culture.
C'est pourquoi?
Prenez actuellement, on nous interdit de chasser les oies au mois de février. Hein, ça fait 3 ans maintenant que le mois de février, on l'a perdu, parce qu'on nous interdit de chasser les oies. Les oies, actuellement, c'est 1 million d'euros de dégâts aux Pays-Bas. Et tous les ans, Ils en sacrifient par gazage, je dis bien par gazage, 500 000. Il y a un plan actuellement de relance de gazage qui est mis en route actuellement aux Pays-Bas pour gazer 500 000 oies, alors que nous, on nous interdit de les chasser. On demandait des quotas de 5 000 pour tout l'ensemble de la France, ce qui représente même pas 0,5 oies à la limite par chasseur, parce que tout le monde ne tue pas des oies, tout le monde... Les oies, vous ne les voyez pas, vous les voyez pendant un mois ou deux, c'est tout. Eh bien, on nous a supprimé ça. On ne veut pas, ils n'acceptent pas ça. Elles n'acceptent pas ça.
Comment on sait si on a atteint le quota? Je me suis toujours posé la question.
Alors, tout simplement, nous avons un moyen qui est actuellement informatique sur nos smartphones, qui est ChasseAdapt. Et chaque chasseur doit déclarer quand il tue une oie. Automatiquement, si nous sommes contrôlés par les gens de l'OFB, avec une oie qui n'est pas déclarée, automatiquement, c'est des sanctions derrière.
Ils existent, ces contrôles?
Oui, ils existent. Effectivement, ils existent. Ils existent.
Donc, au fur et à mesure, on sait combien d'oies il reste à prélever sur l'ensemble du territoire?
Tout à fait, au fur et à mesure.
Pour toutes les espèces comme ça, ou rien que pour l'oie?
Pour l'instant, c'est rien que pour l'oie. Ça a été mis en place, ça s'adapte, a été mis en place par les fédérations. L'année dernière, quand on a demandé des quotas de 5 000 oies.
Pour le canard sauvage, on fait comment alors?
Bon, on peut en faire autant. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de déclarer tous mes canards sauvages par chasse à tape. Quand je tue un canard, je le déclare pour la nuit. J'ai rien à cacher, on n'a rien à cacher.
On a vu, il y a une campagne de communication lancée par la Fédération de chasse pour redorer son blason. Chasseur premier écologiste de France, c'est le slogan. Vous avez l'impression que ça a irrité un peu Madame la Ministre, cette campagne, que c'est la réponse de la bergère au berger?
Vous savez, Madame Pompili, quand j'ai connu Voynet, j'ai 70 ans, hein, j'ai connu Madame Voynet, c'était déjà pas un cadeau, mais quand on nous a dit qu'on nous mettait Madame Pompili, qui est une anti-chasse notoire, mais alors anti-chasse notoire et extrémiste, je dirais, j'ai dit, on va s'en ramasser plein la pipe.
Ça veut dire quoi, une anti-chasse?
C'est une anti-chasse, c'est qu'elle veut supprimer toutes les chasses. Et c'est une animaliste.
On pourrait tenter l'expérience de se dire, tiens, et si on supprimait la chasse pendant 2 saisons pour voir ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait suffisamment de recul? Qu'est-ce qui se passerait?
Mais moi, je suis d'accord. Je vais vous dire franchement, on la supprime cette chasse pendant 2 ans, comme vous dites. Ok, mais les dégâts de gibier, c'est vous, c'est Madame Pompili qui allait les payer? Parce qu'actuellement, ce sont les chasseurs qui payent les dégâts de gibier.
Qui les payent comment? Par l'intermédiaire de leur...
Par les fédérations. ce sont toutes les fédérations de chasse qui payent les dégâts de gibier. Donc automatiquement, on ne chasse plus, ok. Vous prenez l'exemple de la Suisse actuellement. On en parle d'ailleurs dans les médias. Ils ne chassent plus depuis je ne sais plus combien de temps. Ils sont débordés par le gibier, il y en a partout. Et ils vont être obligés de remettre en place des chasses administratives.
C'est pas la bonne formule, ça.
C'est pas la bonne formule.
Pourquoi ?
Pourquoi ne pas réguler au fur et à mesure ?
Une professionnalisation de la chasse, c'est pas imaginable aujourd'hui, une chasse justement administrative, en se disant, ben voilà, on crée de l'emploi même à travers la chasse, pourquoi pas ?
Mais de l'emploi, on en crée, monsieur. Le monde de la chasse, c'est quoi ? Actuellement, c'est une industrie. C'est les armuriers, c'est les fabricants de cartouches, c'est tout ce qui gravite autour. C'est une petite industrie, la chasse.
C'est une économie.
Hein ? C'est une économie. Le gouvernement en profite aussi, parce que sur nos permis, ils prélèvent bien quand même une cotisation. Bon, maintenant, quand vous dites pourquoi ne pas faire que des battues administratives, mais ne croyez-vous pas qu'il est nécessaire et qu'il est plus logique de réguler au fur et à mesure le gibier ? C'est plus un respect de réguler annuellement le gibier que de le détruire une fois tous les 10 ou 15 ans.
Ce serait quelque chose qui serait peut-être mieux consenti par les gens qui se questionnent sur la maltraitance animale, sur le droit de vivre de l'animal et autres. On réglerait des questions d'ordre philosophique peut-être à travers ce... Oui. En se disant que c'est une nécessité environnementale, écologique et sanitaire.
Je ne pense pas que ce soit... les battues administratives, je ne pense pas que ce soit une nécessité pour résoudre les problèmes. Il est clair que vous n'allez rien résoudre avec ça. Parce que de plus en plus, qu'est-ce qui va ? Vous allez avoir des proliférations. Prenez le lapin, par exemple. C'est des dégâts de culture tous les ans. Actuellement, on fait des furetages. Tous les ans, on fait des furetages. Moi, j'ai été président pendant 14 ans. On faisait des furetages de lapins. Et bien, malgré tout, on avait encore des dégâts de lapins. Et on était obligé de payer des dégâts de lapins.
Je peux encore vous poser une question. Excusez-moi. Voilà. Vous savez, moi, j'ai des chiens. Et je vais promener mes chiens, et j'aime bien les voir courir, mes chiens.
Oui,
et de temps en temps, j'ai des chasseurs qui viennent me dire « Mais attends, attache tes chiens, parce que là, ils vont dans le terrier, et j'aurai plus de lapins. » J'ai envie de dire « Mais lui aussi, alors mon chien, dans ce cas-là, il contribue à maintenir un équilibre. Tant pis, s'il n'y a plus de lapins, tu n'auras pas à le chasser, tant mieux pour toi, tu pourras faire autre chose.
» Oui, on en vient aux extrêmes, si vous voulez. De votre question, on en vient aux extrêmes. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des chiens qui se baladent. Ça ne me dérange pas. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur le gibier. Mais bon, ça ne va pas le détruire complètement. Un lapin, il ne va pas se laisser attraper par un chien ou un truc comme ça. Il va rentrer au terrier et terminer. Bon, après, c'est une question d'éthique, monsieur. C'est une question de respect les uns sur les autres. Moi, je dis que quand on est en action de chasse, on a des territoires, on est en action de chasse, automatiquement, on va derrière. Les gens qui se promènent... Moi, je vous dis, j'étais... J'ai chassé en plaine il y a quelques années en arrière, je ne fais que la hutte maintenant, étant donné que j'ai eu des problèmes de santé. Mais j'ai chassé en plaine, j'ai jamais interdit à un promeneur ou un vététiste de se balader. Tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter que quand on est en action de chasse, de respecter un petit peu, de nous respecter comme nous on les respecte. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il y a des moments où ça se passe mal. Et ça se passera toujours mal. Pour revenir aux animalistes, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ces gens-là se permettent tout actuellement. Quand vous voyez qu'ils interviennent dans des chasses à courre, je ne suis pas pour la chasse à courre, personnellement, mais c'est une tradition. La corrida, c'est une tradition. Ce n'est pas pour ça que je l'admets, que j'admets ces pratiques en tant que chasseur, mais je respecte les traditions. La chasse, ce sont des chasses de tradition, et ces traditions doivent être respectées. Moi, ce que je veux, c'est de transmettre à mes petits-enfants ces traditions, c'est tout ce que je demande. Et c'est pour ça que je me bats. À 70 ans, vous savez, si je voudrais, je pourrais ranger le fusil et dire « démerdez-vous ». Eh bien non, je continue à me battre pour que mes petits-enfants puissent profiter de la nature. Parce que la nature, ce sont les écologistes. Je suis d'accord avec eux. Certains écologistes qui la protègent. Mais c'est aussi les chasseurs. Parce qu'il y a eu des réserves qui ont été données aux écologistes. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces réserves ? Ben, ces marais se sont asséchés parce qu'il n'y a jamais eu rien de fait. Et maintenant, ben, on a construit des immeubles dessus. Il faut arrêter les conneries de temps en temps. Nous, on est tout à nos marais. Et puis voilà, c'est la passion qu'on a.
Si il n'y avait pas d'égrenage, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que on se dit on arrête de venir en aide au gibier quand il en a besoin, on arrête de le chasser. Il n'y aurait pas une autorégulation?
Non, parce que l'agrénage, si vous voulez, c'est un moyen de combattre un petit peu les dégâts de culture.
C'est-à-dire qu'on donne à manger au gibier pour pas qu'il aille manger la culture.
Voilà, tout à fait. Moi, je dis que c'est un moyen au gibier pour se nourrir et de ne pas aller détruire des champs de blé ou des trucs comme ça.
Et une dernière question. J'ai jamais compris pourquoi on lâchait des faisans pour les chasser après. Expliquez-moi un petit peu, quel est l'intérêt?
Alors là, c'est complètement autre chose. Il ne faut pas confondre la chasse traditionnelle et la chasse commerciale. Je ne suis pas, pour moi, personnellement, pour les chasses commerciales.
Aux faisans telle que ça, c'est une chasse commerciale?
Quand on lâche des faisans, ce sont des chasses commerciales. Hein, lâcher des cocottes, comme je dis, non. Je ne vois pas l'intérêt quand il faut donner un coup de pied dans le cul aux faisans pour qu'ils s'envolent et le tirer. Bon, pour faire ça, autant tirer des plateaux et faire du ball trap. Moi, c'est mon avis.
Donc si des mesures étaient prises dans ce sens-là, là, vous seriez dans une compréhension.
Tout à fait.
Si on vous dit oui, mais la chasse aux faisans, c'est un art de vivre. Tradition, tout à l'heure, vous m'avez parlé de tradition.
La tradition, c'est de pouvoir chasser du gibier sauvage. Ce n'est pas pour aller chasser du gibier de commercial. Du gibier d'élevage, bon, maintenant, c'est toute une... comment je vais dire? Ces gens-là, c'est pareil, hein, c'est une industrie. C'est de l'emploi, c'est de l'argent.
Ce sont des gens...
C'est autorisé, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas les contre.
Ce matin, les 150-200 chasseurs réunis ont fait preuve de tout leur sérieux, port du masque, distanciation, pas une arme à l'horizon.
De toute façon, ça se passe toujours comme ça.
Sauf que là, il a été dit, on va retourner quand même aux huttes pour chasser le pigeon. Autrement dit, on va désobéir en quelque sorte, puisque la hutte, normalement...
Non, le pigeon est autorisé par dérogation, monsieur.
C'est quoi qui est interdit? C'est l'accès à la hutte ou c'est la chasse au canard?
C'est la chasse au canard qui est interdite actuellement. C'est pas l'accès à la hutte. Vous voulez dormir dans votre hutte. Hein. Mais bon, il n'y a rien qu'interdit de tirer un pigeon sur le pied de hutte.
Hein. Et tout le monde va ne tirer que du pigeon?
Là, je ne peux pas vous répondre.
Ça vous embête pas quand des gens en armes n'obéissent pas aux règles?
Si. Si, franchement.
Enfin, c'est inquiétant, quoi.
Si, parce que je vous l'ai dit, on a des gens de l'OFB qui sont là pour venir contrôler, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils viennent contrôler. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Dans la mesure où ils font dans l'éthique de la chasse et qu'ils ne s'amènent pas comme des cow-boys en cherchant la petite bête partout, moi je dis que les contrôles de permis, l'interdiction du plomb, c'est tout à fait normal. Moi je ne tire pas, je ne tire que de l'acier. Et puis c'est tout. Après, celui qui se fait gauler à tirer un gibier qui est protégé ou à tirer un gibier en période d'interdiction, j'appelle ça du braconnage. Et j'ai pas peur de le dire, je le revendique. Mais dans des périodes comme celle-ci, je ne trouve pas normal qu'au nom du Covid et au nom du H5N8, on nous interdise de pratiquer notre passion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un canard, même contaminé, quand on le prélève, automatiquement, il ne va pas en contaminer d'autres.
Aujourd'hui, la puce à l'oreille donnait la parole aux chasseurs en colère, chasseurs de la vallée de la Sensée, notre rendez-vous magazine. Aujourd'hui terminé. Je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver nombreux pour une de nos prochaines émissions. À bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
Puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.